David Herbert Lawrence, Jimmy. Il a une belle et solide nature en un sens, mais il a absolument besoin d'une femme bien équilibrée pour s'occuper de lui. Tel était le verdict amical que les femmes portaient sur Jimmy. Il en était flatté, enchanté, irrité. L'irritation dominait en lui depuis qu'il avait divorcé d'avec une femme charmante et intelligente qui avait gardé cette opinion pendant 10 ans et qui, à la fin, s'était lassée de ce jeu d'équilibre et de protection. « Je veux bien abandonner Jimmy à son propre sort, mais je sais que le pauvre petit homme ira tomber dans les bras d'une autre femme. C'est ce qu'il y a de pire chez lui. S'il pouvait rester seul, fût-ce 10 minutes, mais il ne peut pas. Pourtant, il y a en lui quelque chose de beau, quelque chose de rare. » C'est ainsi que Clarisse avait résumé la situation, tandis qu'elle s'enfuyait dans les bras d'un jeune et riche Américain. Le jeune et riche Américain se fâchait un peu lorsqu'elle prononçait le nom de Jimmy. Clarisse était sa femme à lui à présent, mais elle se prenait parfois à parler comme si elle était encore celle de Jimmy. Rien de vraisemblable cependant chez son ex-mari. Ce vermisseau s'était transformé. En lui, l'irritation dominait. L'irritation et l'amertume. Il savait exactement ce que Clarisse pensait et disait de lui. Et le quelque chose de beau, quelque chose de rare, quelque chose de solide qu'il était censé avoir en lui était absolument contrebalancé, dans ses sentiments du moins, par le pauvre petit homme blotti dans les bras d'une femme tel qu'on le représentait. « Je ne suis pas, se disait-il en lui-même, un pauvre petit homme blotti dans les bras d'une femme. Si je pouvais seulement trouver la femme qu'il me faut, elle se blottirait dans les miens. » Jimmy avait alors 35 ans, et le dilemme « protéger ou être protégé » était devenu le point décisif, le carrefour de sa vie sentimentale. Il imaginait une femme vraiment femme pour qui il ne serait que beau et solide et à aucun moment le pauvre petit homme. Pourquoi pas une jeune fille simple et sans instruction, une Thèse d'Urberville, une Gretchen sérieuse et réfléchie, une humble Russe glanant dans les champs moissonnés? Certes, le monde en était plein. Le malheur était qu'il ne rencontrait jamais ces femmes-là. Il ne rencontrait que des femmes corrompues. Le hasard ne lui avait jamais fait rencontrer des êtres vraiment vrais. Cela n'arrive qu'à bien peu d'entre nous. Il n'y a que les êtres que nous ne rencontrons pas qui soient les vraiment vrais. Les âmes simples, sincères, droites, spontanées, pures. Ah, les êtres simples! Les êtres sincères, purs, que nous ne rencontrons pas, quelle tragédie! Parce que, bien sûr, ils doivent exister, quelque part. Seulement, nous ne nous trouvons jamais sur leur chemin. Le genre d'occupation de Jimmy compliquait encore terriblement les choses, en le mettant en rapport avec des quantités de gens, et jamais avec ceux qu'il aurait souhaité, jamais avec les vraiment vrais. Les simples, sincères, purs, etc., etc. Il était éditeur d'une revue de luxe, d'une assez belle tenue intellectuelle et qui avait un certain succès. Ses éditoriaux personnels et très naïfs lui amenaient des foules, des essaims, des multitudes d'admirateurs. Songez qu'il était beau garçon et pouvait être extraordinairement charmant quand il voulait. Qu'il était de plus très intelligent, malgré son esprit critique, et vous vous rendrez compte des nombreuses occasions qu'il avait d'être adoré et protégé. Et tout d'abord son apparence physique. Les belles lignes régulières de son visage, qui ressemblait à celui d'un faune hilar dans un de ses moments sérieux et pensifs, les longues lignes de ses joues, son menton fort et son nez légèrement busqué, ses beaux yeux gris sombres aux longs cils et aux épais sourcils noirs. Dans ces minutes d'ironie, alors qu'il était le plus lui-même, son visage était nettement celui d'un dieu Pan, avec ses noirs sourcils arqués, ses yeux de chèvre, gris et luisants d'un reflet sardonique, et son nez et sa bouche aux plis dédaigneux et moqueurs. Un satyre aux traits agréables et à la peau fine. Tel était Jimmy aux yeux de ses amis masculins. Il se voyait lui-même comme une sorte de saint Sébastien martyr, auquel un monde méchant lançait flèche sur flèche. Le Mater Dolorosa n'était rien auprès de lui, et il comptait les gouttes de sang à mesure qu'elles tombaient quand il pouvait en faire le compte. Quelquefois, par exemple lorsque Clarisse lui avait dit qu'elle allait vraiment partir avec le jeune Américain et qu'elle voudrait savoir si Jimmy demanderait le divorce ou s'il la laisserait le demander, alors les flèches l'assaillaient comme une bande d'oiseaux, volant droit sur lui en l'étourdissant, et les gouttes de sang martyr tombaient si dru qu'il ne pouvait plus en faire le compte. Et naturellement, il avait laissé Clarisse demander le divorce. Aux yeux de ses amis masculins, il était ou se devait être un faune, un satyre, un dieu Pan grimaçant. À ses propres yeux, il était un saint Sébastien martyr avec le cerveau d'un Platon. Aux yeux de ses amies féminines, il était un petit homme plein de charme, ayant une compréhension profonde de la vie et une compréhension non moins profonde de la femme, capable de donner à une femme le sentiment qu'elle était reine, ce qui, bien entendu, revenait à dire, capable de donner à une femme le sentiment de sa véritable personnalité. Il aurait certes pu faire un mariage riche ou retentissant, surtout après son divorce. Il n'en fit rien. La raison était qu'il n'avait résolu en secret de ne plus jamais donner à une femme le sentiment d'être reine. C'était au tour des femmes de lui donner le sentiment d'être roi. Une femme pure, naturelle, au sang impétueux, pour qui il serait une sorte de Salomon de sagesse, de beauté et de richesse. Elle devrait être dans une situation précaire pour apprécier sa fortune, qui se montait à la somme rondelette de 3 000 livres, plus une petite maison de campagne dans le Hampshire. Et pour qu'elle pût être pure et naturelle, elle devrait être une femme du peuple. Absolument. Et pourtant, pas tout à fait une obscure et vulgaire nigaude. Il recevait beaucoup de lettres, beaucoup, 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 contenant des poèmes, des contes, des articles ou des confidences plus personnelles. Il les lisait toutes, et, pareil à un gros oiseau solennel, sabrait de coups de bec et d'ongles dans ce fouillis. Et l'une, pas la lettre, mais la correspondante, lui donna tout à coup l'impression qu'elle pouvait bien être la bonne. Madame Emilia Pinegar, qui écrivait d'un village minier du Yorkshire. Elle était, naturellement, malheureuse en ménage. Jimmy avait toujours ressenti un attrait mystérieux pour ces sombres et lugubres villages miniers du Nord. Lui-même n'avait jamais mis les pieds au-delà d'Oxford, mais il sentait que ces mineurs, là-haut, devaient être de la catégorie des vrais. Et Pinegar n'était pas un nom ordinaire, à coup sûr. Et Emilia? Elle envoyait un poème, avec une petite note brève, disant que si l'éditeur du commentateur trouvait les vers sans valeur, il n'avait qu'à les jeter au panier. Jimmy, en tant qu'éditeur du commentateur, trouva les vers très bons et admira la brièveté de la note. il ne pouvait se décider en définitive à publier le poème. Il écrivit donc à Madame Pinegar pour lui demander si elle n'avait rien d'autre à lui soumettre. Une correspondance s'ensuivit et, au bout de quelque temps, en réponse à Jimmy, vinrent ces quelques lignes de Madame Pinegar. Vous me demandez des détails sur moi, mais que vous dirais-je? Je suis une femme de 31 ans. J'ai un enfant, une fillette de 8 ans, et je suis mariée à un homme qui vit avec moi, mais qui a une maîtresse. Je m'essaie à la poésie, si l'on peut appeler ce que je vous envoie poésie, parce que je n'ai aucun autre moyen de m'exprimer, et que, même si cela n'intéresse personne en dehors de moi, je sens que je dois, et d'ailleurs je veux, m'exprimer, ne fût-ce que pour me soulager et m'empêcher d'être envahie par un cancer ou autre maladie de femme. J'étais institutrice et j'ai passé mes examens au collège de Rotherham. Si la chose avait été possible, j'aurais voulu reprendre l'enseignement et vivre seule. Mais on n'autorise plus les institutrices mariées à enseigner et elles ne trouvent plus de poste. Le mineur. Le bruit et le battement réguliers des machines et le clic-clac-clic-clac des cribles de triage descendent en moi comme le battement de son cœur et sont pour moi semblables à son haleine. L'énorme puits brûlant avec ses vapeurs remplit l'air comme la présence de cet homme aux cheveux roux, et le feu qui toujours plus profondément brûle est comme son désir de tout temps exigeant. De même que sa respiration, la benne monte et descend dans la fosse, son désir halète comme les ventilateurs, en tournant aspire l'air. Il vit dans le charbon, sous la terre, et son âme est une étrange machine. Voilà l'homme tel qu'il est. Je l'ai épousé, donc je pense le connaître. La terre, notre mère, l'a tiré de ses entrailles de charbon pour que s'accomplisse mon malheur en ce monde. C'était ce poème que l'éditeur du commentateur hésitait à publier. En y réfléchissant, il se disait aussi que Madame Pinegar ne donnait pas l'impression d'une femme du genre simple et rustique ayant besoin d'être protégée. C'était autre chose qui l'attirait vers elle, un accent désespéré, un accent tragique. Qu'adviendra-t-il? Si, vers le soir, quand vient le crépuscule, vous me demandez ce qu'a été la journée, je ne saurais vous répondre. Les tambours lointains d'un nouvel arrivant s'interposent entre le jour qui vient de s'écouler et moi. C'est un homme étrange conduisant de longues théories de soldats invisibles dans le couchant triste et verdâtre de ses faubourgs enfumés. Et tandis que l'obscurité lentement engourdit mes sens, tout ce que j'ai vu ou entendu durant le jour devient comme une guenille jetée derrière un paravent opaque. Je n'entends au fond de mon être que le son de ces tambours voilés. Et tandis que les forces m'abandonnent, il faut que je m'incline et que j'écoute pour comprendre le sens de ce qui vient vers moi. Peut-être est-ce le dieu de la mort frappant ses pouces sur son tambour en un mortel ratataplan. Peut-être cet homme étrange qui s'avance lentement, marquant le rythme d'un chant de nouvelles et farouches espérances pour les hommes. Mais qu'importe. Le jour, qui se leva dans la poussière de charbon, se couche de même dans un nuage obscur comme le charbon. Je vivrai si je le puis. Si je ne le puis pas, j'accueillerai le destin quel qu'il soit. Ce poème rendait un son si intensément désespéré que l'éditeur du commentateur décida de le publier et bien plus de voir son auteur. Il écrivit à Madame Pinegar, lui demandant si elle consentirait à le recevoir, au cas où il passerait à proximité de son village. Il devait en effet aller faire une conférence à Sheffield. Elle lui répondit « Certainement ». Un après-midi, donc, il fit sa conférence sur « Les hommes dans les livres et les hommes dans la vie », où, naturellement, il donnait la première place aux hommes dans les livres. Puis il trouva un train pour se rendre au village minier où habitaient les Pinegar. On était en février. Çà et là s'étalaient de lugubres plaques de neige. Il faisait nuit quand il arriva à Mill Valley. Il était dans l'obscurité, une sorte d'obscurité renforcée, opaque et pleine de menaces, dans laquelle passaient comme des ombres des hommes qui parlaient avec un accent diabolique, traînant leurs pieds lourds et répandant l'odeur infernale de la mine souterraine. Oui, c'était infernal et lugubre. Il savait qu'il devait monter jusqu'à la place du marché. En chemin, il se retourna et aperçut les vallées noires émaillées d'essaims de lumière, comme des camps de démons, lui sembla-t-il. L'odeur démoniaque du soufre et du charbon était répandue dans l'air, à travers l'obscurité lourde, opaque, visqueuse. On lui indiqua le chemin de la ruelle de Londres et il descendit une autre colline. Il avait la chair de poule vaguement. L'endroit donnait une impression d'hostilité, d'insécurité, de dureté, comme si l'air noir exhalait des pierres et du fer. Dieu merci, il ne pouvait ni voir grand-chose, ni être vu. Quand il avait à demander son chemin, les gens lui répondaient de l'air aimable dont il lui aurait lancé une brique. Après s'être fatigué à marcher et à demander sa route, il entra dans une venelle plantée d'arbres où il enfonça dans la neige fondue et la boue froide d'un dégel de février. Les mines devaient être aux confins du village, dans un cloaque boueux. Il apercevait les feux rouges et aveuglants des puits à travers les arbres et l'odeur de soufre le prenait aux narines. Il se sentait l'âme d'un Ulysse moderne errant dans le royaume d'Hécate. Mais combien plus morne était cette odyssée moderne, et combien plus horribles ces mines et ces usines que toutes les sirènes, toutes les Charybdes de Scylla. C'est ce qu'il se répétait, tandis qu'il pataugeait dans cette boue noire et glacée, le long d'une ruelle noire, sous des arbres noirs, dont le gémissement était comme un accompagnement de basse aux sifflements et chuintements de la mine, sous un ciel noir qui éteignait jusqu'à la lueur électrique de la houillère. Et l'endroit semblait désert, comme une jungle noire et froide. À la fin, il entrevit une faible clarté. Selon toute apparence, il y avait là des habitations. Oui, une rue neuve avec un réverbère, et dont toutes les maisons semblaient plongées dans l'obscurité. Il s'arrêta. Pas âme qui vive. Puis trois enfants qui lui indiquèrent la maison. Il trébucha dans un corridor sombre. On voyait de la lumière dans l'arrière-cour. Il frappa le cœur battant. Une femme, plutôt grande, avec un « Qui êtes-vous ?» le toisa du haut d'une marche. « Madame Pinegar ? Oh, c'est vous, Monsieur Fith ? Entrez !» Il trébucha contre la marche, entrant dans la lumière aveuglante de la cuisine. Là se tenait Madame Pinegar, une femme grande, portant sur la figure comme un masque de colère passive et qui le regardait d'un air froid. Immédiatement, il se sentit honteux et tout petit. Rempli de confusion, il tendit la main. « J'ai eu toutes les peines du monde à parvenir jusqu'ici, » dit-il. Et j'ai bien peur d'apporter une terrible saleté dans la maison, ajouta-t-il en jetant un coup d'œil sur ses bottines. Ça ne fait rien, dit-elle. Avez-vous pris votre thé? Non, mais ne vous dérangez pas pour moi, je vous en prie. il aperçut une petite fille aux cheveux blonds, coupés en franges sur le front, avec des yeux bleus inquiets sous la frange, jouant avec deux poupées. Il se sentit plus à l'aise. « C'est votre petite fille ? » demanda-t-il. « Elle est vraiment mignonne. Comment s'appelle-t-elle ? » « Jeanne. Bonjour, Jeanne. » Mais l'enfant se contenta de le dévisager de ses yeux fuyants, effaré, malheureux, d'une enfant qui vit entre des parents en désaccord. Madame Pinegar préparait le thé, des tartines, de la confiture et des gâteaux. Puis elle s'assit en face de Jim. Elle était assez belle, des sourcils bruns et bien dessinés, des yeux gris constellés de points jaunes, une façon de vous regarder bien en face, comme une femme habituée à affirmer ses droits. Ses yeux étaient ce qu'elle avait de mieux dans la physionomie. Comme les points jaunes au milieu de l'iris gris, ils montraient une certaine douceur, mêlée à un air de volonté féminine, inflexible et implacable. Son nez et sa bouche, réguliers comme ceux d'une statue grecque, gardaient une expression immuable. Du premier coup d'œil, elle donna à Jimmy l'impression d'une femme qui s'est fourvoyée, qui le sait, mais qui ne veut pas, qui ne peut plus revenir sur son erreur. Il se sentait très mal à l'aise. Lui, un homme si petit, si indolent, elle le rendait conscient de son manque d'allure. Et elle ne lui disait pas un mot. Elle se contentait de le regarder de haut, tandis qu'il prenait son thé, de ce regard fixe d'une femme qui affirme ses droits contre les hommes et la destinée. Pendant ce temps, de son petit coin, à l'autre bout de la cuisine, la fillette aux cheveux blonds et aux poupées l'examinait dans le même silence absolu de ses ardents yeux bleus. « Ça m'a tout l'air insupportable par ici, » dit-il enfin. « Pour sûr, absolument, » répondit la femme. « Vous devriez vous en aller, » dit-il. Mais ses paroles tombèrent dans un silence de mort. Il devenait extrêmement difficile de soutenir la conversation. Jimmy s'informa de M. Pinegar. Elle jeta un coup d'œil à la pendule. Il rentre à 9 heures. « Il travaille dans la mine ?»« Oui, il est de l'équipe d'après-midi. » Et toujours aucun son du côté de la fillette. « Est-ce que Jeanne parle quelquefois ? » demanda-t-il. « Pas souvent, » répondit la mère en se retournant. Il dit quelques mots de ses conférences, de Sheffield, de Londres, mais cela n'intéressait guère Madame Pinegar. Elle restait là, assise, lointaine, laconique, le regardant de ses étranges yeux inflexibles. Il lui devinait en elle une femme qui a eu sa vengeance, mais qui est restée brisée sur les rochers mêmes où elle a fait naufrage avec son ennemi. Demeurée inflexible, impitoyable, inexorable, elle semblait cependant irrésolue sur la question de savoir en quoi avait consisté cette vengeance et en quoi avait consisté toute l'affaire. « Vous devriez vous en aller d'ici, » répéta-t-il. « Où ? » demanda-t-elle. « Oh !» il fit un geste vague. « N'importe où, pourvu que ce soit définitif. » Elle parut méditer ses paroles sous son front sinistre. « Je ne vois pas trop ce que cela changerait, » dit-elle. Puis, jetant un coup d'œil circulaire du côté de sa fille, « Je ne vois pas trop ce que n'importe quoi changerait, excepté quitter ce monde pour tout de bon. Mais il y a elle à considérer. » Et, d'un mouvement de la tête, elle désigna l'enfant. Jimmy se sentait décidément effrayé. Il n'était pas habitué à ce genre d'horreur. En même temps, tout cela l'excitait. Cette grande et belle femme laconique, avec ses cheveux bruns souples, qui le regardait sans sourciller de ses yeux tachetés d'or, semblait le provoquer, le défier. Il y avait comme une provocation dans la douceur persistante de ce regard aux reflets dorés. Elle n'était pas sans avoir un cœur. Mais qu'avait-il souffert et pourquoi? Qu'est-ce qui l'avait rendue malheureuse? Elle devait en quelque sorte être responsable de son propre malheur. « Pourquoi ne viendriez-vous pas vivre avec moi ? » dit-il soudain, relevant le défi en vrai joueur qu'il était. Sur son visage brillait un sourire étrange, ambigu. Il avait relevé le défi en vrai joueur. Le sentiment très net d'un jeu dans lequel il était impossible qu'il perdît désespérément toute sa mise, l'excitait. En même temps, cette femme lui faisait peur, et il était bien déterminé à surmonter cette peur. Elle, toujours assise, l'examinait avec un soupçon de sourire moqueur sur sa bouche régulière. « Que voulez-vous dire par vivre avec vous ? » demanda-t-elle. « Oh, je veux dire ce que cela veut dire d'habitude, » répondit-il avec un petit rire suffisant. « Il est bien évident que vous n'êtes pas heureuse ici. Il est bien évident que vous n'êtes pas du tout à votre place. Sans aucun doute, vous n'êtes pas une femme ordinaire. Eh bien donc, libérez-vous. Quand je vous dis « venez vivre avec moi », je veux dire exactement ce que je dis. Venez à Londres vivre avec moi comme si vous étiez ma femme, si vous voulez. » Puis, si nous désirons nous marier, vous divorcerez et nous pourrons le faire. » Jimmy adressait ce petit discours bien plus à lui-même qu'à la femme. C'est comme cela qu'il était. Il élaborait toutes ces choses en lui-même comme s'il s'agissait uniquement d'un problème intime et personnel. Et pendant qu'il réfléchissait ainsi, il avait une façon étrange de loucher de l'œil gauche et de dodeliner de la tête, comme un homme ne parlant absolument qu'à lui-même et les yeux tournés vers le dedans. La femme l'observait avec un grand étonnement. C'était vraiment quelque chose à quoi elle n'était pas habituée. Les manières extraordinaires de Jim et la hardiesse de son extraordinaire proposition l'arrachaient à sa propre et profonde apathie. « Bon, dit-elle. Mais ce sont des choses qui demandent réflexion. Et elle ? » Et de nouveau, elle eut un mouvement de tête vers la petite fille aux yeux ronds dans son coin. Jeanne était toujours assise, son visage de plus en plus dénué d'expression, sa petite bouche rouge entr'ouverte. Elle semblait dans une sorte d'hébétude. Elle comprenait probablement ce qui se passait comme une grande personne, mais restait là comme une enfant, tranquille, hébétée, inconsciente. La mère se retourna vers sa fille et la regarda fixement. La petite fille rendit à sa mère ce regard fixe, avec ses yeux bleus ardents, troubles, presque coupables. Et ni l'une ni l'autre ne proféra une parole. Cependant, elle semblait échanger des yeux tout un monde de pensées. « Eh bien, mais naturellement, » dit Jim, se tortillant de nouveau le cou, « elle viendrait aussi. » La femme donna un dernier regard à son enfant, puis, se tournant vers Jimmy, se mit à l'examiner bien en face, lentement, fixement. « Ce n'est pas, » commença-t-il en balbutiant, « ce n'est en rien une décision soudaine et irréfléchie de ma part. J'ai bien réfléchi à tout ceci depuis longtemps, depuis que j'ai reçu votre premier poème et votre lettre. » Il parlait toujours les yeux tournés vers le dedans, ne s'adressant qu'à lui-même. Et la femme le dévisageait sans sourciller. « Avant de m'avoir jamais vu ? » demanda-t-elle avec une étrange ironie. « Oh, bien sûr. Bien sûr, avant de vous avoir jamais vu. Sans cela, je ne vous aurais jamais vu. Dès le premier moment, j'ai eu le sentiment très net. » Il faisait des gestes brefs, bizarres, comme un homme ivre, et il parlait comme un homme ivre, les yeux tournés vers le dedans et ne s'adressant qu'à lui-même. La femme n'était rien de plus qu'un fantôme évoluant à l'intérieur de sa conscience, et c'est là qu'il lui parlait. La femme réelle était assise devant lui, continuant à le regarder dans une sorte de grand étonnement. Pour elle, ceci sortait vraiment de l'ordinaire. « Et maintenant que vous m'avez vu, désirez-vous toujours que je vienne à Londres ?» Elle parlait sur un ton morne, plein d'incrédulité. La chose lui semblait légèrement extravagante. Mais après tout, pourquoi pas? Il fallait bien quelque chose d'extravagant pour la tirer de la tombe où elle était ensevelie. « Bien sûr que je le désire !» s'écria Jim avec un geste brusque de la tête et de la main. « Maintenant, je veux absolument que vous veniez, maintenant que je vous vois de mes yeux. » Mais il ne la regardait pas. Il ne regardait qu'au fond de son être. Il ne s'adressait toujours qu'à lui-même, dans une sorte d'ivresse de lui-même. Pour elle, c'était quelque chose d'extraordinaire, mais qui l'attirait de son apathie. Il sentit tout à coup les ardents yeux bleus de la fillette aux joues brûlantes fixés sur lui de son coin éloigné. Et il fit entendre un petit ricanement bizarre. « Comment donc? Mais c'est plus que je n'aurais osé espérer, » dit-il, « de vous avoir, vous et Jeanne, avec moi. Cela va être pour moi une vie nouvelle. » Il parlait d'une voix étrange, contenue, un peu délirante. Et, pour la première fois, il leva les yeux sur la femme et il parut la regarder bien en face. Mais, tandis qu'il semblait la regarder bien en face, son œil se retournait à nouveau vers le dedans, et il ne regardait qu'au fond de lui, qu'au fond de sa conscience, où se mouvaient des ombres. « Et quand voudriez-vous que je vienne ? » demanda-t-elle assez froidement. « Mais aussitôt que possible, venez avec moi demain, si vous voulez. J'ai à St. John Wood une petite maison qui vous attend. Venez avec moi demain, c'est le plus simple. » Elle l'observa un bon moment, tandis qu'il restait assis, la tête courbée. Il avait l'air d'un homme ivre, ivre de lui-même. Il devenait chauve sur le sommet de la tête. Ses cheveux noirs légèrement bouclés s'éclaircissaient. « Je ne pourrai pas partir demain. Il me faudrait quelques jours, » dit-elle. Elle aurait voulu revoir son visage. Il lui semblait qu'elle ne se souvenait plus de ce qu'était le visage de cet homme étrange qui avait surgi du néant avec une proposition aussi étrange. Il releva la tête. Ses yeux, toujours retournés vers le dedans, avec ce regard aveugle qui ne voyait pas les choses extérieures. À ce moment, il ressemblait à un Méphistophélès qui serait devenu aveugle. Avec ses sourcils noirs retroussés, c'était Méphistophélès. Méphistophélès aveugle et mendiant dans la rue. « Mais vraiment, c'est merveilleux que les choses se soient passées de la sorte pour moi, » dit-il en avançant les lèvres avec une moue drôlement emphatique. « J'étais un homme fini, absolument fini. J'étais un homme déjà fini lorsque Clarisse était encore avec moi. » Mais après son départ, j'ai été un homme absolument fini, et je croyais que je n'avais plus rien à espérer au monde. Il me semble tout à fait extraordinaire que tout se soit passé de la sorte, que je vous ai connu. Il releva la tête sans rien voir, et Jeanne par-dessus le marché, c'est véritablement trop beau pour être vrai. Il fit entendre un petit rire nerveux, véritablement trop beau. La femme et Jeanne l'examinaient toujours avec quelque gêne. « Il faudra que j'arrange tout ici avec M. Pinegar, » dit-elle assez froidement, d'un air pensif. « Désirez-vous le voir ?»« Oh, vous savez, » dit-il, et son geste demandait grâce. « Je n'y tiens pas, mais si vous croyez que cela vaut mieux, eh bien, je le verrai. »« Je crois que cela vaut mieux, » dit-elle. « Très bien. » Je ferai comme vous voudrez. Je le verrai quand il vous plaira. Il rentre un peu après 9 heures, dit-elle. Entendu, je le verrai à ce moment. Ce sera beaucoup mieux. mais je suppose que je ferai bien de chercher une chambre où coucher d'abord. Il vaut mieux ne pas attendre qu'il soit trop tard. Je vais venir avec vous, et je m'informerai. Oh non, il vaut mieux pas, vraiment. Dites-moi seulement où je dois aller. » Il avait pris un ton protecteur. Il la protégeait contre elle-même et contre le scandale. C'était ses manières quelque peu oxfordiennes qui, plus que toute autre chose, la dépassaient. Elle n'était pas habituée à cela. Jimmy se replongea dans le gouffre noir de cette nuit septentrionale. Il en sentait toute l'horreur, mais il enfonçait son chapeau sur sa tête avec une forte impression d'aventure. Cette aventure, il l'amènerait jusqu'au bout. Chez le boulanger, où elle lui avait conseillé de demander un lit, on ne voulut rien savoir. Son air leur déplaisait absolument. Au cabaret, de même, ils secouèrent la tête. Non, ils ne voulaient rien avoir à faire avec lui. Mais d'une voix qui plus que jamais sentait son Oxford, il leur dit « Mais enfin, voyons, vous ne pouvez pas envoyer coucher un homme sous l'une de ces haies. Ne puis-je pas voir la patronne ?» Il persuada la patronne, qui lui promit de le laisser coucher sur le grand canapé moelleux du parloir où brûlait un feu clair. Après avoir dit qu'il rentrerait vers les 10 heures, il retourna, dans la boue et la bruine, à la venelle de Londres. L'enfant était couché. Une casserole bouillait près du feu. Déjà, sur le visage de la femme, les traits s'étaient légèrement adoucis. Elle étendit une nappe sur la table. Jimmy s'assit en silence, sentant bien que cette femme était à peine consciente de sa présence. Sa pensée était, sans aucun doute, absorbée tout entière par le retour imminent de son mari. L'étranger se contenta donc de s'asseoir sur le sofa et il attendit. Il se sentait engagé pour de bon. Lorsqu'il était engagé à fond, il se sentait capable de tout mener jusqu'au bout. Ils entendirent le sifflet de 9 heures à la mine. À ce moment, la femme retira la casserole du feu et s'en alla dans la souillarde où Jimmy sentit l'odeur des pommes de terre qu'on égoutte. Il restait assis, tranquille. Qu'aurait-il pu dire ou faire? Il avait gardé ses grosses lunettes d'écaille et son visage vide d'expression, figé dans l'attente, ressemblait au masque mortuaire d'un philosophe sceptique qui aurait pu attendre à travers les siècles sans faire de distinction bien nette à aucun moment entre la vie et la mort. Des pas lourds résonnèrent dans le corridor, et l'homme entra comme un coup de vent. Sa moustache blonde ressortait sur le visage noirâtre et souillé, et ses farouches yeux bleus roulaient leurs globes blancs dans leurs orbites noircies de charbon. « Ce monsieur est Monsieur Frith, » dit Emily Pinegar. Jimmy se leva avec un rien de frétillement oxfordien et tendit la main, disant « Bonsoir, monsieur. » Les yeux gris derrière les lunettes lancèrent un dangereux éclair blanchâtre. « Ma main n'est guère en état de faire des politesses, » dit le mineur. « Asseyez-vous. »« Oh, personne ne craint la poussière du charbon, » dit Jimmy en se laissant retomber sur le sofa. « Elle salit proprement. » « On le dit, » répondit Pinegar. C'était un homme de taille moyenne, mince mais solidement bâti. Madame Pinegar, près de son fourneau, ouvrait le robinet de cuivre brillant du bain-marie à côté du four et faisait couler l'eau chaude dans un seau. Pinegar se laissa tomber lourdement dans un fauteuil de bois et se baissa pour enlever ses pesantes bottes grises de mineur. Il répandait autour de lui l'étrange odeur de renfermé de la mine souterraine. En silence, il mit ses pantoufles, puis se leva et alla porter ses bottes dans la souillarde. La femme le suivit avec le seau d'eau chaude. Elle revint étendre une serviette rugueuse sur le garde-feu d'acier. On pouvait entendre l'homme qui se lavait dans la demi-obscurité de la souillarde. Personne ne soufflait mot. Madame Pinegar s'occupait du dîner de son mari. Au bout d'un moment, Pinegar revint en courant, le torse nu, et s'accroupit pesamment sur ses talons devant le grand feu rouge. Sa tête, son visage et le devant de son buste étaient tout humides. Son dos restait gris et sale. Il saisit la serviette sur le garde-feu et commença de se frotter la figure et la tête avec une sorte de vigueur brutale, tandis que sa femme apportait une cuvette. Prenant en silence une flanelle savonneuse, elle lui lava le dos jusqu'au rein où son pantalon était roulé. L'homme semblait avoir absolument oublié l'étranger. Ce nettoyage faisait partie d'un rite, le rite du mineur, et à ce moment-là, personne n'existait pour lui. La femme, en train de laver le dos de son mari, se baissant tandis qu'il était agenouillé par terre, les genoux écartés, accroupi sur ses talons, devant le foyer, sur le tapis en loques, avait un regard singulier, éclairant sa belle figure énergique, un regard à la fois sinistre et moqueur. Elle se moquait de quelque chose ou de quelqu'un, mais Jimmy ne pouvait pas deviner de qui ou de quoi. C'était une impression nouvelle pour lui que de se trouver là assis, complètement et brutalement exclu d'un rite personnel. Le mineur frotta ses cheveux, blonds et courts, jusqu'à ce qu'il se tinsse tout raide, puis il se mit à fixer le feu rouge et brûlant, sans s'occuper de rien ni personne, tandis que ses joues devenaient rouges et brûlantes. Puis il recommença à se frotter la poitrine et le corps avec la serviette rugueuse, comme si son corps était une machine qui l'aurait nettoyé. Pendant que sa femme, d'un mouvement lent et approprié, lui séchait le dos avec une autre serviette. Elle emporta serviette et cuvette. L'homme était sec. Il restait accroupi, les mains sur les genoux, contemplant le feu d'un air absent. Cela aussi semblait une partie du rite quotidien. Ses joues étaient enflammées, sa moustache blonde était effilée aux deux bouts. Mais ses ardents yeux bleus regardait fixement, vaguement, ardemment, les charbons rouges, tandis que la lueur rouge du charbon tombait sur sa poitrine et son corps nu. C'était un homme d'environ 35 ans, en pleine force, à la peau nette et fine, et dont le corps n'était pas envahi de graisse. Ses muscles n'étaient pas gros, mais on les sentait vifs, alertes et pleins d'énergie. Et, tandis qu'il restait accroupi, baignant d'un air distrait dans la lueur du feu, il donnait l'impression d'une machine d'un galbe pur, au repos entre ses heures de travail, avec des yeux énigmatiques d'un bleu sombre comme le fer. Il se retourna, évitant toujours le regard de l'étranger sur le sofa, se refusant à admettre sa présence. La femme prit un ballot de vêtements dans l'armoire et le mit dans la main marquée par le travail que lui tendait l'homme accroupi près du foyer. Curieuse, cette grosse main calleuse, usée par le travail, propre au bout de ce bras nu, mince et d'un blanc suave. Pinegar déplia sa chemise et son tricot devant le feu, les chauffa un moment à la flamme, puis, d'un air vague, endormi, les enfila par la tête. Et alors, enfin, il se leva, sa chemise pendant sur son pantalon, et, de la même façon distraite, endormi, ignorant de ce qui se passait autour de lui, il s'en retourna dans la souillarde, s'arrêtant devant l'armoire pour en sortir un pantalon propre, bien plié. Madame Pinegar emporta les serviettes, et servit le dîner. un ragoût à l'odeur succulente d'oignons dans une marmite brune, fumante, des pommes de terre bouillies et une tasse de thé. L'homme revint de la souillarde vêtu de sa chemise de flanelle propre et de son pantalon noir, ses cheveux blonds soigneusement brossés. Il amena son fauteuil de bois près de la table et s'assit lourdement pour manger. Alors il regarda Jimmy, ainsi qu'un homme circonspect et probablement hostile en regarda un autre. « Vous n'êtes pas d'ici, d'après ce que je comprends, » dit-il. Il y avait quelque chose de légèrement cérémonieux, même un rien pompeux dans sa façon de parler. « Absolument pas, » répliqua Jimmy, avec un petit ricanement de côté. L'homme fit tomber de la moutarde dans son assiette et jeta un regard sur le fricot pour voir s'il était à son goût. « Vous venez d'assez loin, n'est-ce pas ? » demanda-t-il tout en commençant à manger. À mesure qu'il mangeait, il semblait de nouveau oublier la présence de Jimmy. Il penchait la tête sur son assiette et mangeait. Mais ce faisant, il était probablement en train de ruminer quelque chose avec toute la circonspection d'un sauvage. « De Londres, » dit Jimmy, circonspect lui aussi. « Londres, » dit Pinegar, sans lever les yeux de sur son assiette. Madame Pinegar, observant un silence rituel, vint s'asseoir dans son grand fauteuil à bascule sous la lampe. « Qu'est-ce donc qui vous a amené de ce côté ? » demanda Pinegar, tout en remuant son thé. Oh ! Et Jimmy, mal à l'aise, se tortillait sur le sofa. Je suis venu voir Madame Pinegar. Le mineur se dépêcha d'avaler une gorgée de thé. Vous vous connaissez donc ? Dit-il, toujours sans tourner la tête. Jimmy ne pouvait le voir que de profil. Oui, nous nous connaissons à présent, expliqua Jimmy. « Je ne connaissais pas Madame Pinegar avant ce soir. À vrai dire, elle m'a envoyé quelques poèmes pour le commentateur. J'en suis l'éditeur, et je les ai trouvés bien. Je lui ai donc écrit pour le lui dire. Puis j'ai eu envie de la voir, et comme elle était consentante, je suis venu. » L'homme prit le pain, en coupa un morceau, et en avala une grosse bouchée. « Vous trouvez ces vers bons ? » dit-il, se tournant enfin vers Jimmy et le regardant bien en face, d'un regard fixe qui ressemblait à celui de l'enfant, mais agressif. « Allez-vous en publier dans votre revue ?»« Je crois que oui, » dit Jimmy. « Je n'ai jamais lu qu'un de ses poèmes. Il y est question d'un mineur qu'elle connaît à fond parce qu'elle l'a épousé, » dit-il de sa voix caractéristique, âpre, métallique, et laissant percer sous la raillerie une volonté indomptable. Jimmy gardait le silence. La voix dure et batailleuse de l'autre faisait se contracter tout son être. « Pour ma part, je n'ai jamais pu me faire à la lecture du commentateur, » dit Pinegar, se détournant pour demander son dessert d'un mouvement de la tête et repoussant son assiette de côté. « Il me semble qu'il fait beaucoup de chemin pour n'arriver pas à grand-chose. »« Oui, c'est assez cela, » dit Jimmy, recommençant à se tortiller, « mais du moment que le chemin est intéressant. Je ne vois pas ce qui peut bien mener à quoi que ce soit de nos jours, certainement pas un périodique. »« Je ne sais pas, » dit Pinegar. « Il y a quelques faits dans le Libérateur et quelques idées dans le Janus. Pour moi, je ne vois pas bien l'utilité de connaître les sentiments que tous ces gens prétendent avoir. Cela ne mène à rien. Mais, dit Jimmy, réprimant une envie de rire, où voulez-vous que cela mène? C'est fort bien de désirer être mené ici ou là, mais où diable sur la terre, voulez-vous qu'on vous mène aujourd'hui? Je parle d'une façon générale. Si vous voulez un meilleur boulot dans la mine, parfait, allez de l'avant et prenez-le. Mais quand vous semblez désirer qu'on vous mène quelque part dans la vie, il faudrait bien que vous connaissiez quelque chose à ce dont vous parlez. « Je suis un homme, hein ? » dit le mineur avec un calme froid. « Mais qu'est-ce que cela signifie, que vous êtes un homme ?» grogna Jimmy, vraiment exaspéré. « Qu'est-ce que cela signifie ? Oui, vous êtes un homme. Et puis après ?»« N'ai-je pas le droit de dire que je ne veux pas être pris pour une poire ?» dit le mineur lentement, âprement, lourdement. « Vous avez le droit de le dire, » riposta Jimmy avec une envie de rire. « Mais cela ne signifie rien du tout. Nous sommes tous poires, à commencer par le roi George jusqu'en bas de l'échelle. Il n'y a rien à faire. Pour que vous puissiez manger votre dessert, il a fallu qu'il y ait des centaines de poires, y compris votre femme. Oh, « je sais bien, mais cela ne change rien. Je ne veux plus être la poire. » Jimmy haussa les épaules. « Ça va bien, » dit-il. « Ce n'est qu'une phrase comme une autre. » Le mineur restait assis, très calme, sur sa chaise, tandis que son visage se faisait dur et lointain. Il était évident qu'il réfléchissait à quelque chose qui était enfoncé comme un dard dans sa conscience. Quelque chose sur quoi il essayait de s'endurcir, comme la peau, quelquefois, s'endurcit sur une esquille acérée, enfoncée dans la chair. « Je ne suis pas plus qu'une poire, » dit-il, se parlant à lui-même d'un ton dur et ferme et regardant fixement dans l'espace. « Au fond de la fosse, je suis poire. On me donne un salaire, c'est entendu. À la maison, je suis poire, et ma femme me sert à dîner comme si j'étais un client dans une boutique. « Mais que voudriez-vous de plus ? » cria Jimmy, se tournant et se retournant sur sa chaise. « Moi ? Ce que je voudrais ? Rien. Mais voilà ce que j'ai à vous dire. » Il se tourna et regarda Jimmy froidement, bien en face et jusqu'au fond des yeux. « C'est que je suis bien décidé à ne rien supporter non plus. » Jimmy lut dans le regard dur de l'homme une décision si ferme qu'il en eut un frémissement. « Si vous savez que vous êtes bien décidé à ne pas supporter, » dit-il, « je ne veux pas que ma femme fasse des vers et qu'elle les envoie à un tas d'hommes qu'elle n'a jamais vus. Je ne veux pas trouver ma femme assise là, comme la reine Boadicea, quand je rentre à la maison, ni un visage comme un mur de pierre avec des trous dedans. Je ne sais pas ce qui lui manque, elle ne le sait pas elle-même, mais elle fait ce qui lui plaît. Seulement, je vous le dis, je fais de même. » Bien entendu, cria Jimmy, quoiqu'il n'y eût rien de bien entendu dans tout cela. Elle vous a dit que j'allais avec une autre femme. Oui, et je vais vous dire pourquoi. Si je cède devant la nécessité du charbon, et si je descends dans la mine tous les jours pour un esclavage de 8 heures, plus ou moins, quelqu'un doit céder devant moi. Oui, dit Jimmy après une pause. « Mais si cela signifie que vous voulez que votre femme vous soit soumise, eh bien voilà le problème. Il aurait fallu épouser une femme qui accepte de se soumettre. » Ces paroles, dans la bouche de Jimmy, c'était stupéfiant. Il était là, assis, en train de sermonner le mineur, tel un père puritain, ayant complètement oublié que dans l'ombre de sa conscience s'agitait, déprimante, l'image de Clarisse. « Je veux une femme qui soit gentille avec moi, qui ait le désir d'être gentille avec moi, » dit le mineur. « Et pourquoi donc serais-tu plus privilégié que les autres ?» lui demanda froidement sa femme. « Mon enfant, ma petite fille, voudrait être gentille avec moi si sa mère l'a laissé faire. Mais les femmes se soutiennent entre elles. Je vous le dis. » Et il se tourna vers Jimmy, une flamme dans ses yeux bleus sombres. « Je veux une femme qui soit gentille avec moi, une femme désireuse d'être gentille avec moi. Et si je ne peux pas la trouver à mon propre foyer, je la trouverai ailleurs. » « J'espère qu'elle est gentille avec toi, » dit la femme, se balançant doucement. « Oui, » répondit l'homme, « certainement. En ce cas, pourquoi ne vas-tu pas vivre tout à fait avec elle ? » dit-elle. Il se retourna et la regarda. « Pourquoi ? » dit-il, parce que j'ai mon foyer, j'ai ma maison, j'ai ma femme, quelle qu'elle soit, et c'est avec elle que je dois vivre. Et j'ai mon enfant. Pourquoi briserais-je tout cela ?
Eh bien, et moi ? Demanda-t-elle froidement, férocement.
Toi, tu as ta maison, tu as ton enfant, tu as un homme qui travaille pour toi, tu as tout ce qu'il te faut, tu fais ce que tu veux.
Vraiment ? Demanda-t-elle avec une ironie insupportable.
Oui, en dehors du petit travail de ménage, tu fais ce qui te plaît. Si tu veux t'en aller, tu peux t'en aller. Mais tant que tu vis dans ma maison, tu dois la respecter. Tu n'amèneras aucun homme ici, tu m'entends ?
Et toi, tu le respectes, ton foyer ?
Dit-elle.
Oui, certes, si j'ai une autre femme, qui, elle, est gentille pour moi, je ne te prive de rien. Tout ce que je te demande, c'est de remplir ton devoir de maîtresse de maison.
Jusque j'ai y compris te laver le dos, dit-elle, lourdement ironique, et, pensa Jimmy, un rien vulgaire.
Jusque j'ai y compris me laver le dos, puisqu'il faut qu'il soit lavé, répliqua-t-il.
Et l'autre femme, fais-le lui faire.
C'est ici mon foyer.
La femme laissa échapper un mouvement bizarre, comme une folle. Jimmy restait assis, pâle, apeuré. Sous le calme du mineur, il sentait concentrer une colère presque froide et une volonté implacable. Sur la figure décharnée de l'homme, il pouvait apercevoir les os, ces os fixes d'un visage mâle, et c'était comme si l'âme humaine, ou son essence, avait pénétré dans cette charpente, dans ce squelette vivant, pour y devenir presque invulnérable. Jimmy, pour une raison assez bizarre, se sentait une colère insensée contre cet homme osseux et logique. Ce qu'il ne pouvait supporter en lui, c'était cette froideur et cette ténacité durement voulue.
Voyons, écoutez, cria-t-il, faisant vibrer sa voix d'Oxford, les yeux luisants et tournés vers le dedans de lui-même, derrière ses lunettes.
Vous dites que Madame Pinegar est libre, libre de faire ce qui lui plaît.
Dans ce cas, vous ne voyez aucun inconvénient à ce qu'elle parte avec moi, à ce qu'elle s'en aille d'ici.
Le mineur regardait, éberlué, l'étrange visage pâle de l'éditeur. Jimmy détournait légèrement la tête et ne voyait rien ni personne. Ses sourcils étaient froncés à la Méphisto et sa bouche conservait l'immobile pli du Saint-Sébastien martyr.
« Mais est-ce qu'elle désire s'en aller ?» demanda Pinegar avec un scepticisme destructif.
Sa femme esquissa un sourire farouche. Elle discernait la vanité de son mari sous la complète incapacité où elle le voyait de croire qu'elle pourrait lui préférer l'autre homme.
Cela, dit Jimmy, demandez-le lui vous-même.
Mais c'est ce pourquoi je suis venu, pour lui demander de venir vivre avec moi et d'emmener l'enfant.
Vous êtes venu, sans l'avoir jamais vu, pour lui demander cela ?
Dit le mari, de plus en plus abasourdi.
Oui, dit Jimmy avec véhémence, appuyant ses paroles d'un hochement de tête d'homme ivre. Oui, sans l'avoir jamais vu.
Tu as pêché un drôle de poisson cette fois, à l'aide de tes vers, dit-il, se tournant vers sa femme avec une singulière familiarité conjugale. Cette marque toute naturelle de familiarité de la part de son mari l'exaspéra.
Et toi, quelle sorte de poisson as-tu pêché ? Lui retourna-t-elle. Et avec quoi l'as-tu pêché ?
De la glu, dit-il, avec un petit ricanement bref. Jimmy, toujours assis, attendait immobile. Tous trois restèrent un bon moment figés.
« Eh bien, que lui réponds-tu ? » dit enfin le mineur.
Jimmy leva les yeux et le demi-sourire malicieux qui se répandit sur son visage lui rendit sa beauté, le mélange de faune et de méphisto. Il jeta un coup d'œil bizarre et charmeur vers la femme qui l'observait de loin.
« Je réponds oui, répliqua-t-elle d'une voix placide. Le mari redevint très calme, assis bien droit dans son fauteuil de bois et regardant fixement dans l'espace. C'était comme s'il avait observé fixement quelque chose qui s'échappait hors de lui, des profondeurs de son âme. Mais il n'était pas homme à céder un seul instant à l'émotion. Il ne pouvait pas encore croire que cette femme pût désirer le quitter. Et cependant, c'était un fait. « Je suis sûr que tout est pour le mieux, » dit Jimmy de sa voix de père puritain. « Vous ne voyez pas d'inconvénient sérieux ?» Mal à l'aise, il laissait traîner ses paroles. « À ce qu'elle emmène l'enfant ?»« Je vous donne ma parole que je ferai tout ce que je pourrai pour elle. » Le mineur le regarda comme on regarde un homme qui est loin, très loin. Jimmy perdit contenance sous ce regard. Il voyait bien que l'autre était en train de tuer en lui-même, inexorablement, toute émotion. Il se dépouillait, pour ainsi dire, de sa propre chair, se dépouillait lui-même jusqu'à ce que son humanité fût réduite à un squelette dur et insensible. « Je lui donne carte blanche, » dit Pinegar, les dents serrées. « Elle fera ce qui lui plaira. » Voilà caractériser l'amour paternel par rapport à l'égoïsme, dit-elle. Il se retourna et la regarda avec cette colère distante dont il avait l'étrange pouvoir. Et aussitôt, elle se tut, calmée. Je vous donne carte blanche quant à moi, répéta-t-il d'un air distrait. Elle est jolie, ta carte blanche, dit-elle, laissant percer pour la première fois un accent d'amertume. Jimmy regarda la pendule. Il se faisait tard. Il craignait de trouver le bistrot fermé. Il se leva pour s'en aller, disant qu'il reviendrait le lendemain matin et qu'il repartirait à midi pour Londres. Il se plongea dans l'obscurité et la boue de ce pays noir sombrait dans la nuit. Il éprouvait une étrange exaltation mêlée de crainte. Mais, en fait, il lui fallait toujours un élément de crainte pour l'exalter. Il pensait avec terreur aux deux êtres humains qu'il avait laissés ensemble dans cette maison. Quel état de tension effrayant ! Lui-même n'avait jamais pu supporter une tension extrême. Il était toujours obligé d'en venir à un compromis, de se laisser aller à faire des excuses, à s'attendrir. C'est ainsi qu'il comptait s'y prendre avec Madame Pinegar. Emilia. Il lui faudrait s'habituer à prononcer ce nom. Emilia. Emilia, quel nom absurde. Il n'avait jamais encore connu d'Emilia. Il se sentait à la fois vraiment effrayé et vraiment exalté. Ce qu'il faisait là était énorme. Ce n'était pas qu'il fût amoureux de la femme, mais, Seigneur, il voulait la prendre à cet homme et l'emmener loin de lui. Et il voulait risquer l'aventure. Il le voulait absolument. Il se sentait vraiment exalté, vraiment lui-même, vraiment viril. Mais, au matin, il était assez penaud en s'en retournant vers la maison du mineur. Comme la veille, le jour était sombre, bruineux, avec des arbres noirs, une route noire, des haies noires, des maisons de briques noirâtres, et l'odeur et le bruit des houillères sous un jour sans ciel. Comme si l'on vivait dans quelque souterrain diabolique. À contre-cœur, il pénétra de nouveau dans le corridor et frappa à la porte de derrière, tout en jetant un coup d'œil dans le misérable petit jardin avec ses carrés de choux et ses vilaines commodités hygiéniques. L'enfant lui ouvrit la porte, l'enfant aux cheveux blonds, aux joues empourprées et aux yeux bleus sombres et ardents. « Ah, te voilà, Jeanne » dit-il. La mère, droite et impassible, se tenait près de la table et le regardait entrer d'un œil sinistre. Elle était belle, mais son teint manquait de fraîcheur, comme si la bataille avait été trop rude pour sa santé. Jimmy leva les yeux sur elle et lui sourit de son sourire lent, charmeur, qui réussissait toujours à enflammer les cœurs féminins. Et, tandis qu'il voyait les yeux tachetés d'or, scruter les siens sans la moindre douceur, il se mit à penser « Mon Dieu, il va donc falloir coucher avec cette femme ?» Mais sa volonté était bien arrêtée. D'une façon ou de l'autre, il la ferait aboutir. Et quand il aperçut la tête osseuse et immobile et la silhouette mince du mineur, assis dans le fauteuil de bois près du feu, il s'affermit encore dans sa résolution. Il faudrait bien qu'il triomphât de cet homme. « Par quel train partez-vous ? » demanda Madame Pinegar. « Par celui de 12h30 ?» Tout en parlant, il levait vers elle ses grands yeux brillants, puérils, presque timides, qui étaient son principal appoint. Elle lui rendit son regard avec une sorte d'étonnement plein d'intérêt. Elle semblait presque fascinée par ses yeux gris sombres aux longs cils, ses yeux puérils, brillants, charmeurs. C'était un changement si total, après le regard inflexible et rancunier qui partait toujours du fond des yeux bleus de son mari. Son mari, lui, semblait toujours menaçant, si mince, si concentré, si éternellement implacable. Et cet homme vous regardait avec les grands yeux brillants d'un jeune chat angora, quelque chose d'à la fois timide et hardi, d'humble et d'un charme étrange. Elle tomba aussitôt en leur pouvoir. « Vous allez déjeuner avant de partir, » dit-elle. « Non, » cria-t-il, pris de panique, ne voulant absolument pas manger en présence de l'autre homme. « Non, j'ai pris un formidable petit déjeuner. J'achèterai un sandwich en changeant de train à Sheffield, vraiment. » Elle avait à sortir pour faire des courses. Elle lui dit qu'elle l'accompagnerait à la gare en revenant. Il était un peu plus de 11h. « Mais voyons, » dit-il, s'adressant aussi à l'homme mince et distrait qui restait là, indifférent, lisant son journal. « Il faut régler cette affaire. J'ai demandé à Madame Pinegar de venir vivre avec moi, elle et l'enfant, et elle va venir. » Par conséquent, ne croyez-vous pas qu'il vaudrait mieux qu'elle parte tout de suite avec moi, aujourd'hui même? Qu'elle mette tout juste quelques affaires dans un sac et qu'elle vienne? Pourquoi faire traîner la chose? Je vous dis, répliqua le mari, qu'elle a carte blanche de ma part, qu'elle fasse comme il lui plaira. Alors ça va bien. Ne voulez-vous pas que cela soit comme ça? Ne voulez-vous pas partir avec moi tout à l'heure? Dit-il, en la regardant sans hésiter, mais les yeux légèrement en dedans, se jetant d'un élan délibéré à sa merci. « Je ne peux pas, » dit-elle d'un ton décidé, « je ne peux pas partir aujourd'hui. »« Mais pourquoi pas, vraiment? Pourquoi pas pendant que je suis là? Vous avez carte blanche, vous pouvez faire comme vous voulez. »« Cette carte blanche ne me mènera pas loin, » dit-elle sans ménagement. « De toute façon, je ne peux pas partir aujourd'hui. »« Quand pourrez-vous partir alors ? » dit-il d'un air implorant, avec une ardeur étrange. « Le plus tôt sera sûrement le mieux. »« Je pourrai partir lundi, » dit-elle brusquement. « Lundi ? » Il la considéra avec une sorte de terreur panique derrière ses lunettes. Mais il serra les dents et secoua la tête de haut en bas. « C'est très bien. » « Nous sommes samedi. Lundi, donc. »« Voulez-vous m'excuser ? » dit-elle. « Il faut que je sorte pour aller chercher quelques petites choses. Je vous accompagnerai à la gare quand je reviendrai. » Elle empaqueta Jeanne dans un petit manteau et un bonnet bleu ciel, mit elle-même un lourd manteau et un chapeau noir, et sortit. Jimmy s'assit, très mal à l'aise, en face du mineur, qui portait aussi des lunettes pour lire. Pinegar posa son journal et retira ses verres de sur son nez tout en disant quelque chose au sujet d'un ministère travailliste. « Oui, » dit Jimmy, Après tout, mieux vaut être logique. Si vous êtes vraiment démocrate, la seule chose logique, c'est un ministère travailliste. Quoique, pour moi, personnellement, un ministère envahit un autre.
Ça se peut, dit le mineur, mais il faudra qu'on en finisse tôt ou tard avec certaines choses.
Oh, avec un grand nombre de choses, dit Jimmy, et ils retombèrent dans le silence.
Avez-vous déjà été marié? Demanda enfin Pinegar.
Oui, ma femme et moi, nous avons divorcé.
Je suppose que vous voudriez que ma femme et moi nous divorcions, dit le mineur.
Eh bien, oui, cela vaudrait mieux.
Ça m'est égal, dit Pinegar. Divorce ou pas divorce, j'irai vivre avec une autre femme, mais je n'en épouserai jamais aucune autre. Une fois, cela m'a suffi. Mais si ma femme veut divorcer, je ne l'empêcherai pas.
Cela vaudrait mieux, certainement, dit Jimmy.
Il y eut une longue pause. Jimmy désirait que la femme fût là.
Je vous considère comme un instrument, dit le mineur. Il fallait que quelque chose casse. Vous êtes l'instrument qui a fait casser.
C'était quelque chose de pas ordinaire que d'être assis là dans cette pièce avec cet homme mince, lointain, opiniâtre. Jimmy n'était pas loin de se sentir attiré par lui. Mais en même temps, il le détestait, parce qu'il ne pouvait pas être dans la même pièce que lui sans tomber sous son pouvoir. Il se sentait dominé, et cela l'exaspérait.
« Ma femme, » dit Pinegar, levant les yeux sur Jimmy avec un ricanement bizarre, taquin, presque facétieux.
« Ma femme compte bien me voir tomber dans le quatrième dessous après son départ. C'est son dernier espoir. »
Jimmy hocha la tête et resta silencieux, ne sachant que dire. L'autre restait aussi tranquille sur sa chaise, comme une espèce de prisonnier d'une patience infinie, regardant au loin par la fenêtre et attendant.
« Elle croit, dit-il encore, qu'un avenir merveilleux l'attend quelque part, et que vous allez lui en ouvrir la porte. »
Et de nouveau dans ses yeux, passa le même rire moqueur. Et de nouveau, Jimmy se sentit attiré par cet homme. Et de nouveau, il se sentit exaspéré par le pouvoir de cet envoûtement. Car Jimmy voulait passer à ses propres yeux pour l'homme le plus fort parmi les hommes, mais surtout parmi les femmes. Et ce petit homme, mince et bizarre, pourrait le dominer. Il le savait. Rien que le silence indifférent de Pinegar dominait la pièce où qu'il se trouva. Et cela exaspérait Jimmy. À la fin, Madame Pinegar revint et Jimmy s'en alla avec elle. Il échangea une poignée de main avec le mineur.
« Au revoir, » dit-il.
« Au revoir, » dit Pinegar, laissant tomber le regard moqueur de ses yeux bleus, dont Jimmy connaissait trop bien la puissance. Et, tandis que le petit homme à lunettes et la femme imposante s'en allaient vers la gare, ils avaient presque l'air de conspirer contre l'homme laissé derrière eux. Ils prirent des dispositions pour le lundi. Emilia arriverait par le train de 9 heures. Jimmy l'attendrait à la gare de Marylebone et l'installerait dans sa maison de St. John's Wood. Puis, avec l'enfant, il commencerait une nouvelle vie. Que le divorce fût obtenu par Pinegar ou par sa femme, elle et Jimmy se marieraient. Jimmy ressentit le formidable contre-coup de ces événements pendant son voyage de retour. Il sentait qu'il s'était vraiment jeté à corps perdu dans cette aventure. Mais il était dans un état d'agitation trop violente pour en analyser les résultats. Seulement, à mesure qu'il approchait de Londres, un sentiment d'oppression l'envahissait. Il était si affreusement fatigué qu'il ne tenait presque plus sur ses jambes. Cependant, il sortit après dîner et déversa toute l'histoire dans l'oreille de Severn. Vieux fou, lui dit Severn atterré. Pourquoi? Mais pour quelle raison avez-vous fait cela?
Eh bien, dit Jimmy en se tortillant, parce que cela m'a plu.
Bon Dieu, cette femme m'a tout l'air d'une tête de méduse. Je dois avouer que vous êtes un héros qui a de l'estomac. N'oubliez pas Clarisse.
Oh, et Jimmy se tortillait toujours, mais ce n'est pas la même chose.
Ouais, elle s'appelle Emma ou un nom comme cela, n'est-ce pas?
Emilia, dit Jimmy d'un ton bref.
Eh bien, cela n'empêche pas que vous êtes fou, et vous pouvez continuer à jouer ce rôle.
Je ne doute point qu'en faisant le saule pleureur, vous ne passiez au travers de tous les orages féminins que vous vous préparez toujours à vous-même.
Je n'ai encore jamais vu de saule pleureur déraciné par une tempête. Continuez donc à y suspendre votre harpe, et tout ira bien. Vous avez de la chance. Mais pour un homme qui cherchait une petite Gretchen en adoration devant lui, vous êtes refait.
Là s'arrêta le discours de Severn. Mais quand Jimmy rentra chez lui, ses genoux s'entrechoquaient. Le dimanche matin, préoccupé, il écrivit à Emilia. Il ne savait par quelle formule commencer sa lettre. « Chère Madame Pinegar et chère Emilia » lui paraissait ou trop cérémonieux ou trop familier. Il se lança donc sans aucune formule. « Je voudrais que vous lisiez cette lettre avant de venir. Peut-être avons-nous été trop pressés. Je vous demanderai seulement de tout considérer par vous-même pour prendre une décision définitive avant de venir. Ne venez pas, je vous en prie, à moins que vous ne soyez absolument sûr de vous. Si vous hésitez le moins du monde, attendez un peu. Attendez jusqu'à ce que vous soyez tout à fait sûr de vous, dans un sens ou dans l'autre. Pour moi, si vous ne venez pas, je comprendrai. Mais envoyez-moi un télégramme, s'il vous plaît. Si vous venez, vous serez les bienvenus, l'enfant et vous. Votre J.F. Il paya un exprès, plus un supplément de 3 livres, pour aller porter la lettre le dimanche. L'homme revint le soir. Il avait remis la lettre. Il n'y avait pas de réponse. Terrible nuit de dimanche, matinée de lundi angoissante. Une dépêche. Arriverait Mary Le Bon, 12h50, avec Jeanne. Votre Emily. Jimmy serra les dents et s'en fut à la gare. Mais quand il sentit sur lui le regard de la femme, puis rencontra ses yeux, et lorsqu'il la vit ensuite sur le quai venir lentement à sa rencontre, tenant l'enfant par la main, fixant sur lui son lourd regard félin, mal éteint sous ses sourcils droits, il fut sur le point de s'évanouir. Un ricanement pervers le secoua, tandis qu'il tendait la main. Il dit néanmoins, « Je suis enchanté que vous soyez venu. » Et, comme il prenait place dans le taxi, il se sentit entraîné vers cette femme par un désir malsain, mais si violent qu'il en était à demi paralysé. À cette heure, il sentait puissamment la présence de l'autre homme envelopper la femme, et cela lui montait à la tête comme de l'alcool pur. L'autre homme. Par quelque influence subtile, inexplicable, il était là, présent, en chair et en os, le mari. La femme évoluait dans son orbite. Elle était son épouse, sans espoir de retour. Et cela montait à la tête de Jimmy comme du whisky pur. Lequel des deux ferait-il tomber plus bas devant lui, la femme ou l'homme, son mari ?